CILSFM, la seule radio communautaire en français de la côte ouest canadienne.
Le projet Cap Ouest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, La Voix des Prairies, Gravelbourg.
CHPL 92.1 FM, Plamondon.
CIBL Radio Taïga 103.5, Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM, Victoria.
Bonjour et bienvenue dans Sport et Santé Magazine, chronique, interview, revue de presse. Le menu est complet encore une fois cette semaine. C'est Alexis Gagnon au micro en votre compagnie pour la prochaine heure. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale dans les prairies et l'ouest canadien. Dans ses chroniques hebdomadaires, Marie-Hélène nous parlera cette semaine du parcours de la championne de ski alpin Mélanie Turgeon et nous aborderons également la question des blessures aux genoux dont souffrent de nombreux athlètes de haut niveau, en particulier en ski alpin. Et dans la portion santé de l'émission, notre chroniqueuse Julie Gagnon nous renseignera sur le piratage dont a été victime le réseau PharmaNet ici en Colombie-Britannique, un piratage qui soulève la question de l'intégrité de nos dossiers médicaux. Bonne émission à tous! Sport et Santé Magazine, c'est parti. On débute tout de suite avec la revue de presse sportive en guise d'échauffement avant de se rendre aux deux nouvelles chroniques de Marie-Hélène Bourret. Alors, on va commencer avec la LNH, la Ligue nationale de hockey. On va parler de notre club fétiche, notre équipe préférée, le Canadien de Montréal, qui malheureusement s'est incliné 3-0 jeudi soir 23 février. Et comme l'indique cet article de la presse canadienne signé par Michel Lamarche, le Canadien s'est incliné 3-0 sous les huées. 48 heures après une performance qui avait semé un brin d'espoir chez les joueurs et leurs partisans à New York, le Canadien de Montréal a fait un autre pas en arrière après s'être incliné par le pointage de 3-0 face aux Islanders de New York jeudi soir 23 février à Montréal au Centre Bell. Donc le Canadien a été blanchi par les Islanders et selon le chroniqueur André Cyr dans le Journal de Montréal, ces huées ont été bien méritées. On était plusieurs à être déçus ce soir-là, écrit-il. Nous nous étions posé la question après la victoire récente contre les Rangers. Le Canadien parviendra-t-il à coller deux bonnes performances de suite? Eh bien, la réponse est non. On a eu cette réponse contre les Islanders. Le CH est retombé à plat avec le résultat qui n'a pas gagné deux matchs de suite depuis la première semaine de janvier. Ça fait presque deux mois. Encore une fois, le Canadien a démontré très peu d'émotion et très peu d'imagination en attaque, écrit André Cyr dans le Journal de Montréal. Le Canadien n'a inscrit que 13 buts à ses 10 derniers matchs, précise-t-il, dans une course aux séries éliminatoires aussi serrée que celle que l'on vit actuellement. Ça n'est pas très fort. Le directeur général Marc Bergevin tentera-t-il de trouver du renfort? Il faut espérer que oui. Ce n'est pas étonnant que les spectateurs aient montré leur mécontentement en poussant des huées jeudi soir. Les joueurs de Claude Julien avaient toutes les raisons de mettre un peu d'effort ce soir-là, ne serait-ce que pour procurer à leur entraîneur, qui en était à son 1000e match derrière le banc, et à Carey Price, le gardien qui tentait de dépasser Ken Dryden au 3e rang des gardiens les plus victorieux dans l'équipe du CH. Donc les joueurs avaient de très bonnes raisons de performer. Ils n'ont pas livré la marchandise, malheureusement, ni à leur entraîneur, ni à leur gardien qui tentait de briser un record. Alors, avec cette victoire, les Islanders s'approchent à seulement 4 points du Canadien au classement de l'Association Est dans la Ligue nationale de hockey. Et le Canadien n'a plus que 5 points de priorité sur la 8e place. 8e place qui est occupée par les Maple Leafs de Toronto. Et c'est justement contre les Leafs que le Canadien jouera son prochain match. Alors peut-être aurez-vous vu ce match au moment de la diffusion de cette émission. Espérons que le Canadien le remportera. On croise les doigts, bien sûr. Alors, à propos de Claude Julien, qui disputait son 1000e match derrière le banc, un article de Jean-François Chaumont est très intéressant, toujours dans les colonnes du Journal de Montréal. Claude Julien croyait certainement vivre son 1000e match derrière le banc des Bruins de Boston, mais il l'a finalement vécu avec l'équipe pour laquelle tout a commencé pour lui. Julien est devenu le 27e entraîneur à atteindre le plateau des 1000 rencontres dans la LNH. À quelques heures de la visite des Islanders de New York, l'homme de 56 ans s'est livré à cœur ouvert au Journal de Montréal, déclarant « Je suis rendu à 1000 matchs, je le réalise et ça s'est passé très rapidement. Je ne peux pas croire que ça fait autant de rencontres et l'on ne dirige pas 1000 matchs dans cette ligue sans être très bien entouré », a-t-il précisé. J'ai eu de bons adjoints et de bons joueurs. Il est impossible d'arriver à ce plateau seul. Le crédit revient à plusieurs personnes et je me considère extrêmement chanceux. Pour le moment, je suis dans le quotidien, dans le moment présent. Un exploit de ce genre, c'est bien, mais je ne peux m'arrêter à ça. Voilà la confession, les propos de Claude Julien, le nouvel entraîneur du Canadien, au moment de disputer son 1000e match dans la LNH. Il avait disputé son tout premier match dans la LNH le 18 janvier 2003. À cette époque, il avait remplacé Michel Therrien. Alors, l'histoire se répète, c'est assez fascinant. Il avait remplacé Michel Therrien en 2003 et il l'a de nouveau remplacé à la barre du Canadien en février 2017. Alors, de ces 1000 matchs, Julien, bien sûr, se souvient de certains qui ont été particulièrement clé et évidemment le match du 15 juin 2011 lorsqu'il était derrière le banc des Bruins et qu'il a remporté la Coupe Stanley est certainement le plus mémorable. Donc vous trouverez cet article de Jean-François Chaumont dans les pages du Journal de Montréal ou en ligne sur le site du Journal de Montréal, bien sûr. Autrement, dans les autres sports d'hiver, on parle de hockey cette fois. Éric Guay, un skieur dont on a beaucoup parlé dans cette émission récemment. Éric Guay a seulement 5 centièmes de seconde du podium en Norvège. Éric Guay de Mont-Tremblant au Québec, médaillé d'argent de la descente au récent championnat du monde et qui avait dominé l'entraînement la veille, a échoué au pied du podium à la 4e place et son coéquipier Manuel Osborne Paradis a pris quant à lui le 5e rang. Éric Guay a terminé à 25 centièmes du vainqueur et seulement à 5 centièmes d'une place sur le podium, donc la 3e place. Rappelons qu'Éric Guay est devenu le plus vieux champion du monde de l'histoire du ski alpin en enlevant à 35 ans le Super G des mondiaux de Saint-Moritz en Suisse au début du mois de février. Pour sa part, Manuel Osborne Paradis, suite à sa 5e place en Norvège, s'est déclaré enchanté parce que ça lui permet d'assurer sa place dans les finales de la Coupe du Monde. Et voilà, donc deux skieurs à surveiller, Eric Guay et Manuel Osborne Paradis dans l'équipe de ski alpin canadienne. Et toujours en ski alpin, la skieuse Lindsay Vonn nous fait réaliser que la fédération de ski traite les athlètes comme des animaux de cirque et se soucie peu de leur sécurité et de leur bien-être. Alors c'est dans les colonnes de l'Associated Press, c'est malheureux que la Fédération internationale de ski ne nous écoute pas. C'est une déclaration de la championne Lindsay Vonn, championne américaine, médaillée d'ailleurs olympique. Lindsay Vonn n'a pas voulu courir le risque de se blesser de nouveau. C'était en Suisse il y a quelques jours. Lindsay Vonn, de même que certaines autres coéquipières américaines, se sont désistées du combiné alpin en raison des conditions dangereuses du parcours. Les trois premières concurrentes ont toutes été victimes d'une chute et l'une d'entre elles a été évacuée sur une civière après avoir subi une blessure au genou. Alors la fédération, qui ne se soucie pas de la sécurité des skieuses et qui les place devant des risques dangereux en raison des conditions de glisse. Dans mon cas, a déclaré la championne Lindsay Vonn, j'ai tellement eu de blessures qu'il n'était pas question de risquer quoi que ce soit aujourd'hui. Beaucoup d'autres athlètes et entraîneurs m'ont demandé de faire pression pour tenter de faire annuler cette course parce que c'était vraiment trop dangereux et j'ai fait de mon mieux. Mais je prie simplement que personne d'autre ne se blesse aujourd'hui. Je pense que c'était une décision intelligente de la part de notre équipe de se désister. Après de nombreuses chutes, l'épreuve a finalement été interrompue et le portillon de départ a été déplacé plus bas sur la piste. Les skieuses qui avaient chuté ont pu reprendre le départ, mais celle qui s'était blessée, évidemment, en a été incapable. D'abord et avant tout, a repris la skieuse Lindsay Vonn, si toutes les premières concurrentes à aller en piste chutent et ne finissent pas le parcours, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que beaucoup de gens croient que nos opinions ne sont que des plaintes. Nous sommes des femmes, nous pleurnichons et nous devons souffrir en silence et courir. Probablement plus de la moitié des concurrentes ont déjà été blessés auparavant. C'est malheureux que la Fédération internationale de ski ne nous écoute pas. Alors voilà une sortie de Lindsay Vonn, que son statut de championne et médaillée olympique lui permet de faire. Elle a le statut de leader dans ce sport, dans cette discipline. C'est malheureux que la FIS ne nous écoute pas. C'est dans les colonnes de l'Associated Press en date du 24 février. Autrement, on termine avec une nouvelle qui porte sur le skateboard. Oui, vous avez bien entendu, c'est un sport dont on a pratiquement jamais parlé. La planche à roulettes, le skateboard, une légende du skateboard. Tony Hawk, peut-être le connaissez-vous, et cette manchette paraît dans le portail tvasport.ca. Tony Hawk est bel et bien vivant après qu'une fausse nouvelle ait commencé à circuler jeudi sur Twitter, prétendant que la légende de la planche à roulettes, Tony Hawk, était décédé d'une overdose aux opiacés. Le champion en personne a confirmé à ses partisans qu'il était toujours en vie. Alors, il a affiché sur les réseaux sociaux une photo de sport d'hiver à laquelle il participait et a pu ainsi rassurer ses fans. Alors, étant donné l'éruption récente et tragique de décès de célébrités, en partie due à des surconsommations d'opiacés, il était compréhensible, écrit le portail TVA Sport, que certains amateurs aient cru cette fausse nouvelle. Et Hawk a dissipé le doute. Il a précisé qu'il souhaiterait que les gens vérifient les faits avant de colporter des fausses nouvelles. Et cet article rappelle qu'en juin dernier, donc en juin 2016, Tony Hawk avait réalisé l'impossible à l'âge de 49 ans. Il avait réalisé un 900 degrés, c'est-à-dire deux rotations complètes et demie dans les airs avant de retomber bien ferme sur sa planche à roulettes. C'est un exploit qu'il avait réussi une première fois en 1999 et qu'il a pu répéter 17 ans plus tard. Donc Tony Hawk, une légende légende du skateboard. C'est sur cette réfutation de fausses nouvelles qu'on referme cette revue de presse sportive. On va faire la pause musicale avec l'artiste Louis-Philippe Gingras. Au retour, deux nouvelles chroniques de notre fidèle chroniqueuse Marie-Hélène Bourret. Restez à l'écoute.
Je suis de retour, chérie, sur la ligne jaune-orange. J'ai un peu mal pris à soir, qu'est-ce que tu manges? J'ai passé ma paye au pet shop, pis au boule. Parti avec une chick, pis un pigeon qui recoule. Avec une chambre jaune orange, Mathilde déteste mat, mais on couche plus ensemble. J'suis entre le marché, Jean-Talon, pied le quai, pour rentrer le pied. Sur ma chambre, en rose ou en lavande, ou en noir. M'a mettu liquide paper sur mes erreurs. M'a vendu mon char pour t'acheter des fleurs. Sur la ligne vers forêt, avec mon chum Bob, pis un paquet d'épais. Et penser proche, demander du BS, mais mon orgueil s'accroche comme un chien à une laisse. Tu encore avec ton amant, tu encore fâché depuis le jour de l'an. J'aurais vraiment pas dû demander ta main après que tu m'aies vu. Ma chambre en rose ou en lavande ou en noir. M'a mettu l'équipe paper sur mes erreurs.
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors, Sport et Santé Magazine entame cette nouvelle émission avec une chronique sur une grande skieuse canadienne.
Une grande skieuse canadienne et québécoise et francophone, et on parle de Mélanie Turgeon. On en parle au passé, malheureusement, comme skieuse, parce que... Comme skieuse, effectivement, parce que là encore, beaucoup de choses à nous apprendre au point de vue du ski, entre autres, mais aussi du vélo, parce qu'il y avait beaucoup de vélo.
D'accord.
En fait, Mélanie, elle a commencé très tôt à faire du ski. Elle avait 4 ans déjà, mm-hmm. et elle gagnait des compétitions pour des jeunes déjà plus vieux qu'elle, donc de 5-6 ans. Elle apparaît même au héros du samedi alors qu'elle avait 8 ans et elle impressionne vraiment beaucoup. Elle est membre du club du Mont-Saint-Anne près de Québec, qui est la grande montagne dans la région de Québec pour faire du ski. 92, elle devient...
C'est une enfant des années 70. Hein?
76. Ouais, okay. Ouais. Alors, en 92, elle devient membre de l'équipe nationale de ski alpin alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle apparaît régulièrement sur le circuit junior nord-américain. Championnat du monde en 94 alors qu'elle a 17 ans. Et elle récolte 5 médailles. 2 d'or au slalom géant et en combiné. 1 d'argent au super G et 2 de bronze en descente de ski et en slalom. Elle est placée en plus d'être couronnée championne du monde. Elle finira également lors des épreuves de la Coupe d'Europe à Tignes en France en descente, Saint-Sébastien en Autriche et en slalom. Alors, elle remporte toutes sortes d'autres prix. En 98, elle participe aux Jeux de Nagano, meilleure position, 20e au Super-G. Puis, 2002, à ceux de Salt Lake City. Il y a eu comme une espèce de drop, si on veut, là, dans sa performance. Parce qu'elle a tellement performé haut que c'est beaucoup plus facile après ça de tomber.
Mm-hmm.
Première médaille de Coupe du monde en ski alpin en descente, une médaille de bronze à Sierra Nevada en 1999. Durant la saison 99-2000, elle figure à 9 reprises parmi les 10 premières lors des compétitions de la course du monde.
Wow!
Alors, en 2000-2001, ça sera sa plus prolifique avec une première place lors de la compétition de la Coupe du monde en Super-G à Innsbruck. Elle finira deuxième au classement général. Le championnat canadien en descente ainsi qu'une deuxième place au Super-G ainsi que 4 autres médailles lors des épreuves de la Coupe du monde. Finalement, 13 janvier 2001, elle cause une première. Alors, c'est une première pour une skieuse canadienne. Elle remporte 2 médailles dans la même journée lors d'épreuves de la Coupe du monde à Enstal en Autriche. Une médaille de bronze en descente le matin, puis une médaille d'argent en G l'après-midi. 2002-2003, elle devient championne du monde en descente au championnat du monde de Saint-Maurice.
Mmh. Alors, un peu comme le compatriote Éric Gay.
De quelques semaines.
Beaucoup de correspondance entre ces deux carrières. Mélanie Turgeon, d'ailleurs, qui commentait récemment le triomphe d'Éric Gay en Europe, où il a été couronné champion sur le circuit de la Coupe du monde.
Ouais.
Mélanie Turgeon, bien sûr, qui, à cette occasion, avait été invitée à fournir ses analyses.
Mm-hmm.
Elle est demeurée assez présente dans les médias, Mélanie Turgeon, hein,
pour différentes raisons. Oui. Elle fait beaucoup de commentaires sportifs, évidemment, on le sait. Elle est aussi entraîneuse. Elle a fait partie, dans les dernières années, de trucs sur le cyclisme. Alors, c'était au Mont-Tremblant, il y a eu comme, pas une compétition, mais oui, une compétition, si on veut, internationale où elle s'est impliquée.
Oui.
On la voit aussi en santé mentale beaucoup.
Alors, depuis sa retraite en 2005.
Oui, une retraite qui a été forcée. En 2003, elle a eu un accident qui lui a causé une blessure au dos très importante. En 2005, elle est obligée d'arrêter. Et c'est une des blessures importantes, c'est le dos chez les skieurs et les genoux, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, elle a dû se recycler, évidemment. Elle a fait suite à cette prise de retraite forcée. Elle est entrée en dépression grave et sévère et prolongée. Et ça lui a ouvert certaines portes. Elle est allée prendre un cours en programmation neurolinguistique. Et suite à ça, ça lui a permis de revenir. Et elle est présente maintenant dans la semaine de santé mentale, dans le truc de Belle là, pour la journée de la santé mentale et tout ça. Et puis, ben, c'est ça. Et pour savoir qu'est-ce que c'est que la programmation neurolinguistique, ben, c'est une approche qui a été inventée dans les années 70, consacrée à l'étude du comportement humain dans ses dimensions de communication, d'apprentissage et de changement. Elle est donc coach. Maintenant, elle donne des conférences.
Mélanie Turgeon, grande championne, aujourd'hui porte-parole et ressource en santé mentale. Donc, on est bien fiers de cette athlète. Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Au plaisir.
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors, l'hiver n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de glisse à faire. Les sports d'hiver dans certaines régions sont en pleine effervescence. Il y a eu des grosses chutes de neige dans l'Ouest cette année. Alors, on parle de ski. On vient de s'entretenir à propos de la grande championne Mélanie Turgeon. Maintenant, on parle de blessures que subissent fréquemment les skieurs de tout niveau. Le genou est particulièrement sensible dans cette discipline, n'est-ce pas?
Effectivement, les chutes vont provoquer des blessures incroyables aux jambes des skieurs. Mmh. Alors, on peut avoir évidemment des fractures, on peut avoir des entorses à toutes les articulations, mais on va parler plus aujourd'hui des ligaments croisés.
C'est quoi le ligament croisé?
Ben, dans toutes les articulations, il y a évidemment la musculature, il y a les tendons, il y a les ligaments. Bon, les ligaments, c'est ce qui retient en place, si on veut. Alors, il y a les ligaments latéraux et les ligaments croisés. Ceux qui sont latéraux, ils sont de chaque côté du genou. Et souvent, c'est ce qui va provoquer l'entorse, c'est qu'on va avoir un étirement trop rapide, un claquage de ces ligaments-là.
C'est très sollicité
durant
la descente. C'est
très sollicité et ils vont stabiliser le genou. Et les ligaments croisés, eux, en fait, ils se croisent, mais à l'intérieur de l'articulation, sont intra-articulaires.
Alors, et c'est vraiment une merveille d'ingénierie.
Le corps humain, quand on commence à s'y attarder un peu, la mécanique, c'est incroyable, la manière dont on fonctionne, et ça ne prend pas grand-chose. Dans le cas de la descente en ski, souvent on va très vite, évidemment, et quand il y a un impact, soit quand tu rentres dans un arbre, ou que tu tombes, il y en a seulement l'impact, mais où il y a aussi la torsion. Et c'est là que le bas blesse, c'est que quand il y a la torsion trop rapide, il peut avoir une entorse, il peut avoir une déchirure partielle ou une déchirure complète du ligament croisé dans le cas du ski ou dans le cas du soccer, par exemple, c'est la même chose. Soccer, il n'y a pas de descente rapide ou de décélération, mais le coup de pied. Alors souvent, dans le soccer, ils vont se donner un swing, se donner un élan pour taper sur le ballon avec le pied, mais le ballon disparaît. Alors, la force continue, puis à un moment donné, le genou arrête parce qu'il ne peut pas dépasser plus qu'un certain angle, et c'est là qu'il va avoir une déchirure.
D'accord. Et le ski alpin, pourquoi est-ce que c'est particulièrement difficile pour les genoux?
Parce que quand on tombe, souvent, le skieur va rester droit, mais la jambe va tourner.
Oui.
Alors, il y a comme un débalancement, une rotation trop importante au niveau du genou. Parce que l'angle, normalement, la jambe est supposée être droite quand on parle du latéral. Okay? La jambe n'est pas supposée plier de façon latérale. C'est, en fait, c'est ça.
Et on soigne ça comment? Une rupture du ligament croisé?
Ah, ben, si c'est juste partiel, parfois, quand on parle pas d'athlète, hein, mm-hmm. Souvent, le ligament croisé va se réparer lui-même si c'est une déchirure partielle. Mm-hmm. Un petit notch dedans, là.
Oui.
On peut aussi aller enlever une certaine épaisseur dans l'articulation elle-même pour causer plus d'espace, si on veut, pour permettre... Là,
donc là, on parle de chirurgie.
Il y a évidemment une autre pratique qui est un petit peu plus compliquée, où on va chercher donc cette partie de l'os-là dont je te viens de te parler, et on va la greffer dans le ligament. On fait comme une espèce de point de suture où on ajoute cette pièce d'os-là. Mm-hmm. J'ai trouvé ça un peu bizarre quand je l'ai lu, mm-hmm. mais ils doivent savoir ce qu'ils font. Hein? Je veux dire, c'est des spécialistes orthopédiques. Et c'est le corps reprend par-dessus. Malheureusement, il restera fragile, notre genou, peu importe que ce soit une déchirure partielle, que ce soit une déchirure totale qu'on aura recousue. Il y avait à un moment donné, quand on parlait par exemple du ménisque, il y avait possibilité d'aller greffer une espèce de corde.
C'est quoi le ménisque?
Le ménisque, c'est un autre tendon qui arrive sur le genou.
Oui.
Et il y avait possibilité de mettre une espèce de corde.
Ah oui.
Et le corps refaisait le tendon, il reconstruisait
oui,
autour de la corde.
D'accord.
Bon, ça aussi, c'est bon pour la plupart des gens. Si on n'est pas un sportif de haut niveau, ben on peut avoir une attelle, on peut avoir... Mais malheureusement, ce genre de blessure-là, c'est souvent une blessure qui va mettre fin à une carrière.
Oui.
Parce que le genou, c'est pas comme le petit doigt. Hein, le genou, on s'en sert tous les jours pour marcher.
Oui.
Il est toujours, toujours en action, le genou. Et malheureusement, dans ces sports-là, qui sont extrêmes...
C'est vrai pour le hockey aussi.
C'est pour
tous les... Certains joueurs restent oui. vraiment à l'écart pendant plusieurs saisons même
oui. Oui.
Pour soigner le genou.
Oui.
Ils subissent... 2, 3, 4 opérations. On parle de leur retour au jeu, c'est toujours un point d'interrogation. Je pense particulièrement à un défenseur du Canadien de Montréal,
ouais.
Andrei Markov, qui avait été écarté du jeu pendant, je crois, presque 3 saisons.
Ouais.
C'était vraiment invraisemblable et c'était un des défenseurs étoiles de l'équipe. Il est revenu. Et a été capable de retrouver son niveau.
Gardien de but, c'est quand même un peu moins pire, entre guillemets, dans le sens
oui.
où mm-hmm. le genou, on demande un peu moins au genou. C'est sûr qu'il doit s'affaisser parfois rapidement
oui.
et c'est là le danger.
Papillon,
il est là le danger. Mais les genoux, c'est un des endroits dans le corps qui sont vraiment les plus en danger.
Oui.
L'arthrose, par exemple, l'usure anormale de l'os chez les gens qui font de la gymnastique.
Oui.
C'est très courant d'avoir
oui.
l'arthrose partout dans le corps, là, mais dans les genoux particulièrement, parce que ça absorbe
voilà.
de façon répétitive.
C'est un peu le syndrome de la ballerine,
ouais.
mais pour les genoux,
ouais,
les
chevilles. Les coureurs, les chevilles, les genoux.
Ouais.
Donc, les membres inférieurs sont vraiment sollicités
ouais.
dans la plupart des sports. Le sport, c'est la santé. Mais il faut le faire de façon... faut faire attention. Il faut se réchauffer.
Oui.
Il faut pas aller plus loin que ce que l'on sait qu'on est capable d'aller.
Et pour les auditeurs qui souhaitent aller un petit peu plus en profondeur à propos du genou, on a un excellent article à vous recommander. C'est sur le portail Libération, libération.fr. Vous tapez dans votre moteur de recherche « Pourquoi le genou est-il le talon d'Achille du skieur? » Donc, si vous tapez « genou, talon d'Achille, skieur », vous tomberez tout de suite sur cet article fort intéressant dans lequel on retrouve une interview d'un médecin spécialiste. C'est un médecin de montagne, comme on les appelle,
ouais.
qui soigne les
spécialisé,
skieurs.
En fait. Là, un urgentologue de la montagne,
exactement.
Si on veut.
Donc, sur le portail Libération. Grand merci, Marie-Hélène.
Ça m'a fait plaisir.
À bientôt.
Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps. Et les vautours faisaient des cercles autour. de l'école, on bastonnait les dissidents. Pendant que regardaient en rang les étudiants dans les maisons, pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires, les flamants roses volent dans le ciel encore et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore.
À l'instant, une pièce de Jean Leloup. Vous êtes toujours à l'écoute de Sport et Santé Magazine et nous ouvrons le second volet de l'émission qui porte sur la santé et le mieux-être. Petit tour d'horizon, d'abord des actualités récentes. J'ai réuni quelques articles intéressants pour vous. Commençons tout de suite avec l'espérance de vie. C'est dans le journal Le Devoir. L'espérance de vie pourrait dépasser les 90 ans en 2030. Au Canada, l'écart entre les hommes et les femmes devrait se réduire selon une étude publiée dans The Lancet. L'espérance de vie devrait continuer de progresser d'ici 2030 dans les 35 pays les plus développés de la planète, dont le Canada, franchissant même le cap des 90 ans pour les Sud-Coréennes, selon une étude publiée il y a quelques jours dans le journal médical de Lancet. Au Canada, l'espérance de vie des femmes devrait atteindre 87 ans en 2030, comparativement à 84 ans environ pour les hommes, permettant au Canada de continuer à figurer dans le top 10 mondial. Les Sud-Coréennes pourront pour leur part espérer la plus grande longévité mondiale en 2030, une espérance de vie qui pourrait atteindre les 90 ans. Donc pour les Sud-Coréennes, indique cet article du journal Le Devoir. Au tournant des années 2000, précise un expert dans cet article, nous croyons que l'espérance de vie humaine ne dépasserait jamais les 90 ans. Il sera important que nos politiques soutiennent à présent la population vieillissante. Cette étude révélée dans The Lancet utilise plusieurs modèles prédictifs pour évaluer l'espérance de vie à la naissance dans le futur pour 35 pays. Le Canada, qui présente déjà l'une des meilleures espérances de vie sur la planète, devrait conserver son avantage. En effet, alors que les femmes canadiennes figurent actuellement au 8e rang mondial, elles resteront dans le top 10 et elles devraient figurer au 10e rang environ en 2030. Les hommes canadiens, eux, devraient enregistrer un gain, passant de la 5e place mondiale en 2010 à la 4e place en 2030. Donc ça, c'est dans le journal Le Devoir. L'espérance de vie pourrait dépasser les 90 ans en 2030. Comprenez-vous bien le langage docteur? C'est la question que pose le chroniqueur Alain Vadeboncœur, qui est lui-même médecin. Le défi, écrit-il, c'est de se rendre compréhensible pour les patients qui doivent participer à une prise de décision éclairée avec leur médecin. Mais les notions médicales, déjà complexes, deviennent parfois opaques lorsqu'elles sont prononcées dans le dialecte docteur. Est-ce que votre médecin vous écoute, dit-il? J'espère bien, parce que c'est essentiel. Mais vous parle-t-il suffisamment? Et si oui, c'est un bon point. Sinon, posez-lui des questions et le comprenez-vous bien lorsqu'il parle? Pas toujours? Alors, c'est peut-être parce qu'il parle docteur, ce dialecte un peu étrange qu'il utilise un peu trop souvent. Alors, vous le voyez, c'est écrit sur un ton humoristique. Alain Vadeboncœur, c'est un chroniqueur que vous connaissez sans doute pour l'avoir vu dans différentes émissions à Radio-Canada et à la radio de Radio-Canada. Il signe toujours cette chronique dans le magazine L'Actualité. C'est là qu'on a trouvé ce texte sur le langage docteur. « Comprenez-vous bien le langage docteur? » C'est une chronique très éclairante que je vous recommande dans le magazine L'Actualité. On saute aux colonnes du Journal de Montréal. Oui, la grippe d'homme existerait vraiment, selon une nouvelle étude. Avez-vous déjà entendu cette expression, une grippe d'homme? Une étude semble indiquer qu'il y aurait du vrai derrière cette expression. Une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Ottawa tend à confirmer que les individus de sexe masculin seraient plus affectés par les symptômes de la grippe. C'est en effet la conclusion à laquelle arrive une équipe de recherche du laboratoire NISE, spécialisé en neuro-immunologie, en stress et en endocrinologie de l'Université d'Ottawa. Selon un communiqué émis par cet institut, les chercheurs ont constaté lors de leurs expériences que les souris mâles infectées par la grippe montraient plus de comportements associés à la maladie que les souris femelles et que leur température corporelle affichait davantage de fluctuations et qu'elles prenaient plus de temps à se rétablir. C'est dans le Journal de Montréal et le titre « Oui, la grippe d'homme existerait vraiment » selon une nouvelle étude. Maintenant, dans les colonnes de la presse canadienne, les médecins devraient-ils prescrire la marche à leurs patients? C'est la question que pose la manchette de cet article. La prescription formelle de marche par un médecin, combinée à l'utilisation d'un podomètre, peut augmenter de 20% le nombre de pas quotidiens réalisés par les patients, selon une étude menée par l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Cela s'accompagne en plus de bienfaits mesurables sur la santé, comme une baisse de la glycémie et de la résistance à l'insuline chez les personnes souffrant d'hypertension et de diabète de type 2. L'étude a été menée auprès de 364 patients et 74 médecins dans différents hôpitaux de la ville de Montréal. Tous les patients continuaient leur routine médicale habituelle avec le médecin, mais certains d'entre eux devaient effectuer en plus un nombre de pas donné et les quantifier à l'aide de à l'aide d'un podomètre. Après un an, les patients s'étant vus prescrire la marche avaient effectué 1200 pas de plus par jour en moyenne que les autres. En outre, on note chez les deux tiers de ces patients une baisse de la glycémie et parfois une amélioration de la résistance à l'insuline. Publiée dans la revue Diabetes, Obesity and Metabolism, cette étude serait la première à prouver qu'une ordonnance de pas, une ordonnance de marche autrement dit, remise par un médecin, peut s'avérer bénéfique pour la santé du patient. Toujours dans la presse canadienne, les enfants doivent au moins 40% de leur obésité à leurs parents. Les enfants héritent environ 40% de leur indice de masse corporelle, l'IMC, de leurs parents, selon une nouvelle étude britannique. Ce pourcentage atteint 60% chez les enfants plus obèses, ce qui signifie que plus de la moitié de leur prédisposition à l'obésité est attribuable à des facteurs génétiques et à leur environnement familial. Les chercheurs de l'Université du Sussex ont comparé la taille et le poids de quelques 100 000 enfants et de leurs parents provenant de 6 pays, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Indonésie, Espagne et Mexique. Les chercheurs ont constaté qu'environ 20% de l'indice de masse corporelle provient de la mère et 20% provient du père. Ces taux sont les mêmes dans tous les pays, peu importe le niveau de développement économique ou d'industrialisation. Vous trouverez ça dans le fil de la presse canadienne. Les enfants doivent au moins 40% de leur obésité à leurs parents. Autrement, retour dans le journal de Montréal qui nous apprend qu'une femme, mère de 3 enfants autistes, a créé un logiciel pour les aider. Et c'est le titre de l'article, un logiciel créé pour aider les autistes. Inspirée par ses enfants, une mère est retournée aux études pour développer ce système. C'est écrit par le journaliste Hugo Duchesne. Inquiète de voir ses 3 enfants autistes faire des crises et les portes des écoles se refermer, une mère de Montréal est retournée aux études pour créer un logiciel qui calme les autistes. Et ce logiciel présente un ami virtuel qui apprend à l'utilisateur autiste les mathématiques et d'autres sujets. L'intérêt pour le logiciel créé par Aïdé Lisa Mondragon, qu'elle garde farouchement caché pour le moment en attendant d'obtenir son brevet. L'intérêt donc, c'est maintenant répandu un peu partout et jusqu'aux États-Unis. En effet, des chercheurs de Caroline du Nord, indique le journaliste Hugo Duchesne, ont approché cette mère programmeuse, elle programme l'informatique et elle a été approchée pour de plus amples tests, de plus amples expérimentations de son logiciel et elle est au doctorat dans une université montréalaise. Son directeur de thèse s'appelle Roger Cambou et celui-ci n'hésite pas à souligner le courage de son étudiante qui a complété son doctorat avec 3 enfants autistes en étudiant le soir. Les mathématiques, ce n'est que le début, a dit le directeur de thèse. Nous voulons que ce logiciel puisse tout enseigner aux enfants autistes. Aïdé Lisa Mondragon, l'étudiante doctorale qui a créé ce logiciel, en est très fière. Et c'est sa plus grande réussite, indique le journaliste Hugo Duchesne. Sa plus grande réussite est d'avoir rendu l'éducation accessible à ses enfants. « Je le fais pour les mères qui, comme moi, s'inquiètent de l'avenir de leur enfant », a-t-elle confié au journaliste. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce tour d'horizon des actualités en santé et mieux-être. Au retour de la pause musicale, Julie Gagnon revient sur le piratage dont a été victime la base de données PharmaNet en Colombie-Britannique récemment. Restez à l'écoute. Bonjour Julie Gagnon.
Bonjour Alexis.
On revient sur l'affaire PharmaNet. Peut-être expliquer ce que c'est PharmaNet. C'est un grand réseau, une base de données?
Oui, c'est ça. C'est en fait une centrale d'information, voilà, qui fait le lien entre les pharmaciens, les professionnels de la santé, les médecins, mm-hmm,
et les prescriptions des Britannico-Colombiens dans le réseau de la santé.
D'accord. Donc, quelle que soit l'affection dont on souffre, on a un médicament, cette information-là est dans PharmaNet.
Exactement. On se rend à la pharmacie, chercher notre prescription, et notre pharmacien a accès à notre dossier comme ça, en instantané, avec notre prescription, et peut comme ça nous délivrer notre médicament pratiquement sans intervention, papier ou...
Oui.
Donc, c'est très...
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui est arrivé à cette centrale d'information?
Cette centrale d'information-là a été victime depuis l'automne dernier d'environ 4 événements, dont le plus récent en février et fin décembre 2016 et début 2017, donc janvier-février, où on aurait vu une certaine activité suspecte sur le réseau PharmaNet. Et ce que le ministère de la Santé a découvert, c'est qu'il y a 7500 Britannico-Colombiens qui auraient eu leurs informations dévoilées parce que ce réseau-là, PharmaNet, contient votre nom, numéro de téléphone, date de naissance, numéro de carte d'assurance maladie, votre historique médical des 14 derniers mois, donc c'est des informations extrêmement sensibles, et toutes vos prescriptions. Donc, ces informations-là auraient été vues par quelqu'un qui n'est pas autorisé et il y aurait eu accès au réseau PharmaNet par l'entremise d'un mot de passe d'un médecin. Donc, c'est vraiment pas une brèche dans le système ou dans la sécurité du système en soi.
C'est pas un piratage informatique.
Absolument
pas. On parle d'une faille humaine.
Oui.
Donc, un délit qui consisterait à obtenir des informations par persuasion ou tromperie. Donc, ils ont obtenu des codes d'un médecin ou d'un pharmacien.
Ou volé le code, les clés d'accès.
D'accord. Et ces informations-là sont suffisantes pour faire de l'usurpation d'identité, du vol d'identité. Mm-hmm. Alors, c'est assez grave et ça concerne, tu le disais, 7500 Britanno-Colombiens.
Oui, exactement. L'idée est en fait que ces informations-là, hein, on sait, pourraient être utilisées contre nous, hein, pour les assurances, pour les emplois, etc. C'est des informations qui sont considérées confidentielles et personnelles.
Oui.
Et donc, l'utilisation et la divulgation de ces informations-là pourraient vraiment compromettre la sécurité et l'intégrité des Britanno-Colombiens avec ces informations concernant leur santé, leur historique médical. Donc,
j'imagine qu'il y a potentiellement du chantage qui peut s'exercer contre certaines personnes aussi. Sur des informations particulièrement sensibles relatives à leur santé.
Oui, de l'extorsion.
Oui, donc c'est très sensible. On peut créer des cartes de crédit. Lorsqu'on on réussit à capter une identité, il y a toutes sortes de choses qu'un pirate peut faire. Donc, c'est très grave.
Oui.
Comment a réagi le gouvernement et la première ministre?
En fait, le gouvernement est très concerné par cette nouvelle, en fait, dénonce la situation. Christy Clark a promis de renvoyer la personne qui serait à l'origine de cette faille, de cette brèche, de ce vol d'identité, si c'est quelqu'un du gouvernement ou du corps médical qui aurait donné son mot de passe. L'enquête est en cours. On devrait avoir des nouvelles d'ici peu. Doug Riley du NDP, pour sa part, lui trouve déplorable que le gouvernement ne prenne aucun blâme sur la situation actuelle. En fait, il trouve déplorable qu'on puisse... que Christy Clark renvoie la situation en disant simplement qu'elle allait renvoyer la personne concernée.
Fautive.
Oui, fautive. Le ministre de la Santé assure...
S'il s'agit, bien sûr, d'un employé du gouvernement ou du système de santé, ça pourrait être quelqu'un qui est complètement extérieur. Tu me disais hors d'antenne que 14 personnes sont sous enquête actuellement?
Oui, 14 médecins sont sous enquête présentement relative à l'activité un peu suspecte qu'il y avait sur PharmaNet. D'ailleurs, cette activité-là suspecte a été...
Identifiée?
Identifiée, merci, par MedNet, qui est un vendeur du gouvernement
qui est un fournisseur de services
qui lui a vraiment qui s'est vraiment rendu compte de l'activité, sinon sans lui on s'en serait pas en fait rendu compte. Donc, on est très... on remercie Mednet d'avoir su voir cette activité-là qui était un peu suspecte.
Et c'est pas la première fois que ça se produit.
Non, malheureusement.
Dans l'ensemble
oui.
du gouvernement. Pour faire c'est manette, ça n'est pas une première. Et dans l'ensemble du gouvernement, c'est assez courant
oui.
de quoi faire dresser les cheveux sur la tête, vu le nombre. Tu as la liste là devant
oui,
toi.
Oui, c'est ça. Le 2013, 2012. C'est pas nécessairement toujours concernant le ministère de la Santé ni les informations par rapport au dossier médical des Britanno-Colombiens. Mais souvent, c'est par rapport au domaine de l'éducation. Bon, il y a eu des informations en 2013 par rapport à la santé, en 2010, en 2009, en 2006.
Oui.
Les nombres ne finissent pas, oui. les dates ne finissent
et
pas.
Et c'est documenté, c'est une liste que tu as pu colliger en consultant un petit peu les articles sur la question.
Oui, c'est ça. CBC en fait l'inventaire dans un article qui s'appelle « Lottery Web Accounts ». That has been compromised.
Oui.
Et CBC a une liste comme ça.
Est-ce qu'on peut en citer deux ou trois?
Oui, absolument. Si on veut s'attaquer à ce qui est concernant la santé, on se rappelle qu'en 2012, il y a eu le dévoilement d'informations qui a mené au renvoiement de 8 chercheurs en santé. On se rappelle Roderick McIsaac qui avait commis un suicide à la suite des enquêtes. L'an dernier, en éducation,
oui.
cette fois, le gouvernement aurait été sévèrement critiqué pour avoir égaré un disque dur qui contenait les informations de pas moins de 3,4 millions d'étudiants.
Égaré,
oui. 4000 dossiers de patients de Vancouver ont été volés en mai dernier.
Qu'est-ce que ça vaut, ça, un disque dur avec 3,4 millions de dossiers étudiants?
Je sais pas, mais...
Égaré,
oui.
Bon,
perdu. Voilà.
On y reviendra peut-être.
Oui.
Ce serait intéressant de savoir s'il y a eu une enquête dans ce dossier.
Oui.
Mais bref, ta liste s'allonge comme ça.
Oui.
Et c'est CBC qui nous a bien renseigné. L'article est vraiment fait une compilation des faits de piratage et de perte de données indues au cours des dernières années. C'est assez préoccupant.
Oui.
Donc, le NPD, bien sûr, a critiqué le gouvernement dans l'affaire Pharmanet. Ce sujet, on l'a déjà abordé. Ça renvoie à une chronique que tu avais livrée ici au micro du débrief récemment. On avait parlé de la compagnie Maximus, qui est une compagnie privée américaine cotée en bourse qui obtient par voie de sous-contrat des responsabilités dans le système de santé ici en Colombie-Britannique, à savoir gestion de nos dossiers, gestion de nos données. Et l'une des tâches de Maximus était de renforcer Pharmanet, renforcer l'intégrité, la solidité du système.
Mm-hmm.
En 2013, et bon, manifestement, là, il y a des failles importantes.
Oui.
Et bon, on peut pas lancer la pierre tout de suite, peut-être, à Maximus, sachant qu'il s'agit d'une erreur humaine ou d'une négligence humaine.
Mm-hmm.
C'est ce que semblent indiquer les faits. Donc, c'est intéressant.
Oui.
On avait parlé de Maximus. On avait évoqué la question des serveurs hébergés à l'étranger, des serveurs qui contiennent nos dossiers médicaux.
Ouais.
C'est un sujet épineux. On y reviendra peut-être.
Oui, il y a une enquête d'ailleurs sur la sécurité de Pharmanet, pas juste sur cet événement-là, mais sur la
oui.
sécurité en général.
D'accord.
Qui est menée en ce moment et qui devrait être conclue en juillet prochain. Donc, on y reviendra peut-être
oui.
cet été.
Juste après les élections.
Okay. Oui. Oui, c'est ça.
D'accord.
Après une vague, une longue histoire de dévoilement d'informations et de fuites d'informations
oui.
De la part du gouvernement. On aura les résultats en juillet.
Et pour terminer sur ce sujet, il y a des nouvelles toutes fraîches. L'affaire Pharmanet a éclaté à la mi-février, donc il y a un peu plus d'une semaine. mais ça continue de susciter des questions. La première ministre, Christy Clark, a été interpellée par une association sans but lucratif dans les dernières heures, en début de semaine. Cette association s'appelle le BC Freedom of Information and Privacy Association. Donc, c'est une OBNL, une organisation à but non lucratif, qui demande à la province de compenser les victimes, les 7500 victimes de ce piratage Pharmanet. Alors, on va voir comment réagira le gouvernement de Christy Clark. Un dernier mot en terminant, Julie?
Oui, bien, en fait, par rapport aux compensations, il faut se dire que les 4000 dossiers des patients de Vancouver l'an dernier ont reçu compensation. Ah. Donc, il y a peut-être une historique là qui pourrait aider oui. les 7500.
Un précédent?
Oui, c'est ça.
OK, formidable. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup.
Merci, Alexis.
À bientôt.
C'est la fin de cet épisode numéro 44 de votre rendez-vous Sport et Santé Magazine. L'émission s'arrête ici. Elle réapparaîtra peut-être à la grille de votre radio communautaire francophone locale un jour. En attendant, je tiens à vous remercier d'avoir été à l'écoute en mon nom personnel, Alexis Gagnon, et au nom de toute l'équipe de CILS FM 107,9 à Victoria, en Colombie-Britannique. Ce n'est que nos revoirs. Portez-vous bien, actifs et en santé, où que vous soyez, en Saskatchewan, dans les territoires du Nord-Ouest, en Alberta ou encore en Colombie-Britannique. À la prochaine et merci. Hey, you don't.